Alléluia. Quel bonheur d'être tout à Jésus. Voilà, je ne sais pas si vous, les plus anciens se souviennent peut-être de ce petit cœur que j'ai failli dire que nous chantions autrefois, vous rendez compte? Quel bonheur. Nous sommes vraiment très touchés encore une fois avec mon épouse de pouvoir avoir cette opportunité d'avoir passé toute cette journée d'hier et encore toute cette journée d'aujourd'hui ici au milieu de vous, et nous voulons rendre grâce à Dieu de tout notre cœur pour la joie qu'il nous fait, qu'il met dans nos cœurs par rapport à cela. Nous disons aussi toute notre reconnaissance à, non pas Jean-Luc, mais Luc et Valérie Goyot, voilà, de nous avoir adressé cette fraternelle invitation. Nous les remercions aussi de tout cœur pour leur accueil vraiment très chaleureux, fraternel, sincère. Bon, ça suffit, hein, voilà. Que Dieu nous bénisse ensemble maintenant, si vous le voulez bien, à l'écoute de la bonne parole du Seigneur. Voilà, j'espère pouvoir aussi saluer au milieu de vous plusieurs. Je reconnais des visages que je n'ai pas oubliés. Bon, je ne vais pas me risquer à citer un nom, de peur d'en oublier d'autres, hein, voilà. Mais que Dieu nous bénisse maintenant ensemble. Prenons encore un temps, s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur pour lui remettre ses instants. Notre Père, notre Dieu, vraiment, nous sommes là devant toi. C'est toi qui nous tiens vraiment, nous soutiens. Et nous te louons, Seigneur, en effet, pour ces temps de communion fraternelle, de communion avec toi, ces temps où nous avons pu célébrer de tout notre cœur la gloire de ta grâce, Seigneur. Tu nous as si merveilleusement sauvés, nous qui étions si loin de toi, ô Dieu, tellement ignorants de ce que nous pouvions vivre, de notre devenir, mais tu es venu vers nous, Seigneur. Tu nous as tendu une main secourable. Tu ne nous as pas traités selon nos péchés, mais tu nous as fait grâce pour toutes nos offenses. Merci de tout notre cœur, Seigneur. Merci de nous conduire aussi maintenant, ô Dieu, par ton esprit, dans la méditation de ta parole. Fais-la vivre, Seigneur. Fais-la vivre dans nos cœurs par ton esprit, qu'elle nous parle, qu'elle nous ramène à toi, plus près de toi encore, Seigneur. Nous sommes conscients des temps difficiles que nous vivons, mais pourtant nous sommes pleins d'espérance parce que tu es avec nous. Et non seulement cela, Seigneur, mais tu es pour nous. Alors merci, Seigneur, pour ta grâce. Accorde-moi la liberté dans l'expression, la clarté dans les explications. Viens oindre, Seigneur, nos cœurs, nos oreilles, pour que nous puissions entendre, au-delà de ta parole, ta voix. Merci, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors voilà, donc nous sommes toujours dans ce sujet, ô combien important, mais pour le introduire peut-être ce matin avec un rappel très bref, je vous invite à reprendre avec moi deux lectures que nous avons déjà faites hier dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24, verset 3. Voici ce que nous lisons. Il est question de Jésus. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Nous allons au verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Amen. Voilà ce premier texte pour dire que lorsque les disciples sont venus poser la question au Seigneur au sujet de son avènement en gloire, eh bien, Jésus va donner en fait une longue réponse qui s'étire sur tout le chapitre 24, et tout le chapitre 25. Il va dire vraiment beaucoup de choses qui concernent les nations, qui concernent Israël et qui concernent son Église, celle qu'il s'est acquise au prix de son sang précieux. Mais je voudrais vous faire observer que la première chose qu'il va dire, avant de parler des signes, etc., le signe pour l'Église, annonciateur des derniers temps qui vont annoncer, immédiate, l'avènement du Seigneur, seront des signes marqués par une séduction intense, qui va affecter beaucoup de monde, pas un peu, pas quelques-uns, mais beaucoup. En réalité, la séduction, elle s'exerce depuis le jardin d'Éden. En réalité, nous avons évoqué les trois formes de séduction. La séduction, une séduction d'ordre général, la séduction du péché qui affecte tous les hommes de tous les temps, depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden jusqu'à nos jours. Il y a une séduction plus spécifiquement religieuse qui consiste à maintenir les hommes et les femmes égarés, loin de Dieu, mais pourtant parmi toutes sortes de religions, de sectes, car vous savez que l'homme est une créature spirituelle, ayant été coupé à cause du péché de cette relation spirituelle avec Dieu, l'homme cherche un sens à sa vie et il essaie de compenser finalement ce besoin spirituel. Il a essayé tout au long de l'histoire, en instituant les grandes religions que nous connaissons, puis au fil de l'histoire, toutes sortes de sectes, ils sont apparus, qui ont disparu, qui ont réapparu, et puis encore de nouvelles, parce que l'homme a des besoins spirituels. Mais toutes ces sectes, tous ces mouvements religieux maintiennent pourtant les hommes et les femmes loin de Christ. Le seul nom qui a été sauvé, qui a été donné aux hommes par lesquels ils peuvent être sauvés. Le seul et l'unique nom, il n'y en a pas d'autres. Toutes ces religions sont une séduction de la part de l'adversaire. Et puis il y a la séduction qui intéresse plus spécifiquement ceux qui ont été sauvés, rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité les uns et les autres de nos pères. L'Église du Seigneur Jésus qui s'est acquise par son propre sang. Et il y a là une forme de séduction extrêmement grave, puissante, insidieuse, qui affecte déjà l'Église. Depuis que l'Église est née, le jour de la Pentecôte, les séducteurs, les faux prophètes sont apparus très très rapidement, ainsi que Jésus l'avait annoncé. Je ne fais qu'un résumé de ce que nous avons déjà dit. Et aujourd'hui encore, ils sont là, ils pullulent absolument partout dans le monde. Et la menace principale de l'Église, une menace majeure et redoutable, c'est la menace de la séduction spirituelle contre l'Église. Voilà ce qu'il faut retenir. J'essaie de synthétiser au maximum. Un deuxième texte, s'il vous plaît, que nous pouvons prendre, Matthieu chapitre 7, verset 15. Après avoir indiqué au verset 13 que la porte et le chemin qui mène à la perdition sont larges et spacieux, après avoir montré que le chemin qui mène à la vie, le chemin du salut, s'ouvre à travers une porte qui est étroite, Et après avoir invité donc ceux qui trouvent cette porte à y entrer, et c'est intéressant car ce matin nous avons entendu un don spirituel justement qui s'adressait peut-être à un ou plusieurs au milieu de nous, en tout cas c'est sûr, un, peut-être plusieurs, qui se tient sur le pas. Tu as trouvé la porte, c'est bien, mais mon frère, ma sœur, mon ami, entre maintenant. Il faut entrer. Il ne faut pas seulement regarder. Vous savez comme on fait parfois, on est peut-être sur le seuil d'une porte et puis on regarde à l'intérieur un petit peu ce qui se passe. Oh, c'est chouette, c'est intéressant, c'est super. Oui, mais entre maintenant, entre dans la présence du Seigneur. Et comme cela a été dit, sa main sera sur toi. Tu connaîtras le pardon des péchés. De tes péchés. Tu connaîtras la paix de Dieu, cette vie nouvelle, abondante, où il y a certes des combats, des difficultés, des épreuves, des tribulations, mais où tu ne seras jamais seul, parce que le Seigneur t'accompagnera. Nous rendons témoignage de la fidélité du Seigneur. Après donc avoir évoqué cela, Jésus avertit, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Ceux qui me disent Seigneur, verset 21, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et cette parole, pour ça que nous avons lu le contexte, eh bien elle s'adresse principalement aux faux prophètes. Bien sûr, elle s'adresse à tous les croyants, tous ceux qui ont connu la grâce du Seigneur, mais qui n'ont pas forcément peut-être bien intégré le fait que quand on entre sur le chemin du salut, nous commençons par un processus de régénération qui nous amène sur un chemin où nous sommes petit à petit façonnés, épurés, élagués, émondés, en un mot, sanctifiés. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est pour ça que nous avons besoin d'être absolument vigilants. Et le Seigneur dit, le Seigneur dira donc à ces faux prophètes qui, bien, vous savez que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, de manière individuelle, personnelle, nous avons tous un rendez-vous, un face-à-face avec le Seigneur. C'est dans des temps à venir, proches. Et ces faux prophètes paraîtront devant le Seigneur et ils entendront cette parole que Jésus a prononcée, là, que nous avons lue. Ils l'entendront. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. D'où l'importance, pas seulement de fréquenter une église, une belle assemblée comme l'assemblée de Colomiers, c'est déjà bien. Ne vous privez pas de participer à ces rassemblements. Mais c'est plus important d'avoir une relation de cœur avec le Seigneur. Au plus vous aurez une relation de cœur authentique avec le Seigneur Jésus, au plus vous développerez, nous développerons, je dis vous, mais nous, mais moi je suis avec vous là, hein, au plus nous développerons ensemble des liens, une communion fraternelle authentique, avec un soutien mutuel. Voilà, nous avons donc évoqué hier les caractéristiques des faux prophètes. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ils viennent en vêtements de brebis, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Nous avons évoqué un certain nombre de fruits. Nous avons vu que leurs enseignements sont des enseignements caractérisée par l'hérésie, la fausse doctrine, des doctrines pernicieuses qui sont apportées d'une manière extrêmement habile. Extrêmement habile. C'est pourquoi elles sont si dangereuses. Les séducteurs, les faux prophètes, les faux apôtres, les faux docteurs, ce sont des gens qui viennent vous flatter. Vous savez, vous passez la main sur l'épaule, ou dans le dos. Mon ami, tu es vraiment quelqu'un d'important. Dieu, tu sais, il veut faire de grandes choses avec toi. Moi, je suis comme toi. Je cherche la volonté du Seigneur, mais marchons ensemble et dirigeons-nous vers ces grandes choses que le Seigneur veut nous montrer. Dieu va te donner un grand ministère. Tu es quelqu'un d'important. La flatterie, nous avons vu que c'est quelque chose qui est à la base vraiment de la séduction des faux prophètes. Sous une apparence d'humilité, ces faux prophètes, en réalité, ils séduisent à travers la flatterie. Et comme dans les derniers temps, on a vu que beaucoup abandonneront la foi et que les gens aimeront entendre des choses agréables. C'est vrai que ça fait quand même plaisir quand on dit sur nous des choses agréables. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais oui, c'est bon, on peut dire que c'est vrai parce que de toute façon c'est vrai, hein. Il vaut mieux entendre des fois des choses agréables que de prendre un coup de bâton, par exemple. Oui. Bon, si vous êtes bien constitué, normalement, ça flatte notre ego. Voilà. Parce que il y a encore dans notre nature, cette nature charnelle qui est vendue au péché. Et nous avons besoin de veiller sur la flatterie. Attention à la flatterie. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent de la fable de La Fontaine. Le corbeau et le renard. Voilà, je ne vais pas vous la réciter. Hein, voilà. Mais il y a quand même là une grande vérité. Nous avons lu dans la parole de Dieu que les faux prophètes sont des gens qui pratiquent vraiment la flatterie. Ils annoncent un autre évangile. Ils parlent de notre Jésus. Ils auront beaucoup de succès. Nous aimons vraiment les gens qui ont du succès. Nous faisons leur succès en les suivant, sans s'en rendre compte, en réalité. C'est nous qui faisons leur succès. Mais ils auront beaucoup de succès. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Attention aux prodiges et aux miracles mensongers. Nous avons vu également que les faux prophètes ne travaillent pas avec l'Esprit de Dieu, mais avec l'esprit de séduction. Nous avons vu des textes spécifiques de l'Écriture, et je vous invite, on ne peut pas les relire parce que ça prend le temps sur ce que je dois dire encore, mais je vous invite à écouter effectivement, ou alors demander les notes à notre frère. Voilà, je l'ai lui envoyé, je pense qu'il a dû les recevoir. Voilà, très bien. Je voudrais évoquer ce matin plus spécifiquement l'iniquité des faux prophètes. Qu'est-ce que c'est que cela? De quoi le Seigneur veut-il parler quand il évoque l'iniquité? Vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi, leur dira-t-il. Eh bien, d'abord, cette iniquité, elle est caractérisée par ces gens qui, disent avoir un ministère et qui, en réalité, ne sont pas d'authentiques disciples de Jésus-Christ. Ce sont de faux disciples de Jésus-Christ. Plutôt que de rentrer dans de longues explications, je voudrais vous inviter à peut-être lire rapidement dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8 et au verset 20, l'histoire de Simon le magicien. Vous vous souvenez de cette histoire de Simon le magicien? Voilà. On va juste lire Voilà. On va lire à partir du verset 18. « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Écoutez bien maintenant. « Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur, écoutez bien, pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Amen. Très rapidement, Philippe l'évangéliste a été envoyé donc, en Samarie, il y a prêché le Christ. Et quand il est arrivé en Samarie, il y avait un homme, Simon le magicien, qui en fait tenait toute cette région sous son pouvoir. En fait, c'était un magicien extrêmement puissant et populaire. Les prodiges qu'il opérait étaient tels qu'on disait de lui, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » C'est vous dire, voilà, la confusion que, dans laquelle les gens se trouvaient quand ils voyaient les prodiges qui était opéré à travers cet homme, Simon le magicien. Mais voici que le Seigneur envoie son serviteur Philippe avec le message simple de l'Évangile, le message de la grâce de Dieu, le message libérateur. Il prêche le Christ et le Seigneur confirme sa parole en étant dans ses mains. Et il opère des prodiges, des miracles, certainement des délivrances. Et les gens se tournent vers le Seigneur et il nous est dit que Simon lui-même a cru. Simon lui-même a cru et il est devenu donc un disciple. Voilà. Et donc, il a été baptisé. Hein, c'est écrit, voilà. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Et puis, voici que Pierre et Jean apprennent que la Samarie a reçu l'évangile, donc ils sont envoyés par le Seigneur pour affermir ses croyants et pour prier pour eux afin qu'ils reçoivent le baptême dans, excusez-moi, le baptême dans le Saint-Esprit. Donc Pierre et Jean prient pour ses croyants. Et là, effectivement, eh bien, les Samaritains sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et là, c'est extraordinaire parce que Simon, le magicien, est le témoin oculaire de ce grand miracle. Et il voit la transformation réelle à travers un fruit abondant, le fruit de l'esprit dans la vie de ces gens et, comment dirais-je, ce désir qui est né dans leur cœur de se sanctifier. Et il est en train de constater que toute cette population qu'il tenait sous sa coupe et sous son pouvoir, je vous ai expliqué que les faux prophètes sont des hommes de pouvoir. Ils aiment le pouvoir, ils aiment les honneurs. Il a vu que tout cela lui échappait. Et donc dans son cœur est né ce qui sera révélé plus tard, de l'amertume, un fiel amer. Il avait des sentiments mauvais, méchants à l'égard... Pardon. Ça va aller. On va y arriver. Hein. Et donc Simon, le magicien, donc s'est dit, mais voilà, Simon aussi, j'ai ce pouvoir. je vais pouvoir reprendre tout ce monde sous ma coupe. Et c'est ainsi qu'il a demandé à Pierre et Jean, eh bien, ce pouvoir, il leur a offert de l'argent. Et c'est là que nous avons cette parole redoutable de l'Esprit de Dieu à travers Pierre, qui est rempli du Saint-Esprit et qui dévoile l'état du cœur de Simon, le magicien. Il avait cru, s'était fait baptiser, mais ce n'était pas une authentique conversion. Il n'était pas réellement passé par une authentique repentance. Je rappelle que lorsque les Éphésiens se sont convertis au Seigneur, que s'est-il passé? Vous avez cela dans Actes chapitre 19. L'Écriture nous dit qu'ils ont apporté leurs livres de magie et ils les ont brûlés de telle sorte que la valeur de tous ces livres était évaluée à près de 50 000 pièces d'argent. Je regardais avec les correspondances, ça fait à peu près 2 millions d'euros. C'est pas rien, quoi, voilà. Ils auraient pu se dire, tiens, quand même, c'est quand même une somme, allez, je vais les vendre, et puis je vais m'en débarrasser, mais je vais les vendre. Ah, non, non, parce qu'ils étaient réellement convertis au Seigneur, ils ont compris la dangerosité des pratiques auxquelles ils se livraient, et surtout que ces livres ne tombent dans aucune main, ils ont préféré perdre leur or, leur argent, plutôt que de mettre en péril des âmes. Eux qui venaient d'expérimenter ce que c'est que d'être sauvé, ce que c'est que d'être pardonné. Chose que Simon n'a jamais expérimenté, car sinon, s'il avait expérimenté ces choses, jamais il n'aurait parlé comme cela. La grâce de Dieu, peut-être l'une des grâces les plus extraordinaires, l'une des expériences les plus saintes que puisse vivre un chrétien, c'est celle d'être baptisé dans le Saint-Esprit par le Seigneur Jésus. Car c'est le Seigneur Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous voyons que Simon le magicien était un faux disciple. Il était un faux disciple. Alors, l'histoire s'arrête là. Son histoire à Simon, elle s'arrête au verset 24 du chapitre 8. Mais nous savons par l'histoire de l'Église, et notamment à travers les écrits d'un des pères de l'Église qui s'appelait Irénée, peut-être entendu parler d'Irénée, originaire de Smyrne, qui a été le premier serviteur de Dieu qui est venu sur Lyon. Il a écrit un livre sur les hérésies. Et dans ce livre, il explique ce qu'est devenu Simon. Simon, le magicien qui fut exhorté à la repentance pour recevoir à nouveau, et de façon réelle cette fois, qu'il se l'approprie, le pardon de ses péchés, qu'il en comprenne le prix qui a été payé, de telle sorte qu'il puisse être réellement régénéré par l'Esprit, eh bien, Simon a refusé cette repentance. D'ailleurs, il le dira, on le sent. Priez vous-même le Seigneur. Priez vous-même. Nous savons par l'histoire qu'il a replongé dans sa magie. Et il a exercé une très forte séduction. Sa popularité et sa renommée fut telle, eh bien que l'empereur Claude lui a élevé même une statue. Une statue. Et à la fin de sa vie, il a fait un syncrétisme, un mélange entre la foi chrétienne et sa magie, et il prétendait être une incarnation de Dieu sur la terre. Voilà. Autrement dit, il est devenu réellement un faux Christ. Voilà. Une des caractéristiques, une des iniquités des faux prophètes, c'est qu'ils sont en réalité de faux disciples qui deviennent ensuite de faux prophètes. Autre élément, pardon, décidément, nous le trouvons dans la seconde épître de Pierre au chapitre 2, Second Épître de Pierre, chapitre 2, verset 3. Hier, pourtant, ça s'est bien passé. Ah, ça va mieux. Voilà. Donc, ça va aller mieux. Hein. Il y a eu... On va lire à partir du verset 1er pour avoir le contexte. Il y a eu, 2 Pierre chapitre 2, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront. Voyez, encore une fois, ils auront du succès dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Le verset 3. Par cupidité, la cupidité c'est l'amour de l'argent, ils trafiqueront de vous. Là, c'est du vieux français, ça veut dire ils profiteront de vous. Ils vont vous exploiter financièrement parlant. Au moyen de paroles trompeuses, eux, que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Par cupidité, ils trafiqueront de vous. Voilà, sous une apparence d'humilité, eh bien, les faux prophètes, en réalité, ils aiment beaucoup l'argent. Ils aiment l'argent. Ils parlent d'argent. Ils font des appels. Ils vous disent, c'est pour le Seigneur, c'est pour la gloire du Seigneur. Oui. Mais non, en réalité, c'est pour eux. C'est pour s'enrichir eux-mêmes. Mais ils font passer ça, ils essaient de dire, voyez, ils adoptent un langage faussement biblique. Voilà. Ils prêchent souvent sur la dîme et les offrandes. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner sa dîme et son offrande. Dieu entend que nous soyons fidèles dans ce domaine, comme dans tous les autres domaines, n'est-ce pas? Voilà. Mais ces faux prophètes-là, ils aiment beaucoup l'argent. Ils aiment ce qui va avec l'argent. Ils aiment les honneurs. Ils aiment le pouvoir, ils aiment dominer. Voilà, par cupidité, ils trafiqueront de vous, ils vous exploiteront. Quel contraste avec cette parole de l'apôtre Pierre, 1 Pierre chapitre 5, verset 2, qui exhorte les responsables des églises de la manière suivante, « Paissez le troupeau de Dieu ». 1 Pierre chapitre 5 verset 2, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Eh bien, ces faux prophètes, ils sont loin, très loin de cela. Dans la Bible, nous les voyons d'ailleurs souvent se tenir auprès des gens de pouvoir. Rapidement, Nombre chapitre 23, nous avons celui qui est décrit dans 2 Pierre chapitre 2, comme étant le faux prophète par excellence, Balaam. Répondre à la sollicitation du roi Balak, car Balak, roi des Moabites, voulait détruire Israël, mais il n'y parvenait pas, parce qu'il savait que Israël était sous la protection du Dieu d'amour, alléluia, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, devenu Israël. Alors il a fait appeler Balaam, qui était un prophète de Dieu, mais qui avait une faille dans sa vie, il aimait le pouvoir, il aimait les honneurs. Alors Balak lui a dit, viens, je te rendrai beaucoup d'honneur. Et donc, viens et maudis-moi ce peuple d'Israël. Voilà. Les faux prophètes se tiennent auprès des hommes de pouvoir. Je passe, donc Nombre chapitre 23. Sédécias, fils de Kenaana, se tenait auprès du roi Akab, 1 roi chapitre 2, verset 11, pour le séduire. Ananias, je suis obligé de passer vite, pardon pour les références qu'on ne peut pas afficher. Fils de Azur se tenait près du roi Sédécias. Le roi Sédécias, vous savez, ce roi, comment il a fini? C'est dramatique. Alors que Jérémie, eh bien, avait annoncé la prise de Jérusalem par les Babyloniens, par le roi Nebuchadnezzar, alors qu'il avait encore annoncé la grâce du Seigneur qui était promise à ce peuple, s'il se rendait, il serait amené en captivité à cause eh bien, de leur désobéissance, de leurs péchés, de leurs infidélités multiples et aggravées. C'était un message difficile à entendre, mais c'était pourtant le message du salut. Mais le faux prophète Ananias se tenait lui auprès de ce même roi Sédécias et lui disait « Dieu va te donner la victoire !» Ah, il va te donner la victoire. Tu vas triompher des Babyloniens. Dieu va briser le joug de Babylone. Ainsi parle l'Éternel. Le faux prophète, j'ai remarqué, utilise parfois cette expression « Ainsi parle l'Éternel ». Quand vous entendez quelqu'un parler comme ça, attention, soyez extrêmement prudents. Les prophètes de l'Ancien Testament, ces porte-paroles autorisées de Dieu, pouvaient s'exprimer comme cela. Je ne vois pas dans l'Écriture les prophètes du Nouveau Testament, encore moins les dons spirituels de prophétie, s'exprimer de la sorte. Nous devons être extrêmement prudents. En tout cas, Sédécias a préféré écouter la voix des faux prophètes. Et ça a été un drame. Jérusalem a été investie. Des dizaines de milliers sont morts. Sédécias a été couvert de chaînes. On l'a amené couvert de chaînes devant le roi Nebuchadnezzar, accompagné de ses fils, qu'on a égorgés sous ses yeux. On a crevé les yeux de Sédécias. Et on l'a amené captif à Babylone, couvert de chaînes, et il est mort à Babylone. Voilà. Ils ont écouté la voix de ce faux prophète qui se tenait près de cet homme de pouvoir. Il nous est dit dans le Nouveau Testament, nous l'avons lu aussi, voyons, Bar-Jésus, fils de Jésus, se tenir près de Sergius Paulus, l'homme le plus hautement placé en termes de pouvoir, le gouverneur de l'île de Chypre. Près de lui, il y avait Bar-Jésus, un faux prophète. Ces hommes, ces faux prophètes, ils aiment être les premiers, comme Diotrephe, Jean, second épître de Jean. Je reste perplexe lorsque je découvre que certains pasteurs sont multimillionnaire, c'est étonnant, eux qui prétendent servir le Seigneur Jésus, attention, on peut avoir des biens, des richesses, etc., mais c'est une grande responsabilité. Vous savez que Jésus a dit que ce sera difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux, d'entrer dans le royaume de Dieu, parce que le pouvoir, l'argent a un très fort pouvoir de corruption. Et je suis perplexe quand je vois ces pasteurs qui ont des jets privés, qui ont des châteaux, c'est pas des villas, c'est des châteaux. Voilà, un à tel endroit, un autre à tel endroit, qui ont certains ont plusieurs jets, je sais pas comment ils font. Voilà. Et la multitude de leurs auditoires, c'est étonnant. Ils font un geste comme cela, tous les gens qui tombent. Ah, quel pouvoir! Ça, c'est un pasteur. Non, Dieu dit ça, c'est un faux prophète. Bien sûr, ils en mettent plein la vue. Ils nous étonnent. Se dire, si j'avais un tel ministère, eh bien, n'envie pas un tel ministère. Non. Ils sont extrêmement dangereux. L'Écriture nous dit qu'ils sont audacieux et arrogants. Audacieux parce qu'ils se prêchent eux-mêmes. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. 2 Pierre chapitre 2, verset 10. Audacieux et arrogants. Ils se prêchent eux-mêmes, ils aiment raconter pour impressionner leurs auditoires et donc leur prouesse en termes de prodiges, de miracles. Là aussi je suis perplexe, non pas qu'il ne faille pas rendre témoignage des œuvres du Seigneur, mais vous savez, ils sont très habiles, ils présentent ça. Mais toute la gloire revient au Seigneur, mais au passage, ils en prennent vraiment, vous voyez, ils impressionnent leurs auditoires, voilà, pour être glorifiés par les hommes. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Je suis étonné parce que lorsque je lis les Écritures, comme vous, je m'aperçois que même il est dit de Paul qu'il faisait à Éphèse, plutôt Dieu faisait par les mains de Paul des miracles extraordinaires. Déjà un miracle, c'est beau, c'est grand, mais un miracle extraordinaire, c'est... on a du mal. En tout cas, ça montre l'étendue de l'expérience de cet homme en matière, eh bien, de pouvoir, de, comment dirais-je, en matière de, oui, son expérience dans le domaine de la manifestation de la puissance de Dieu. Mais j'observe que dans aucune de ses épîtres, il ne mentionne aucun miracle, pas un seul. C'est l'évangéliste Luc qui a écrit les Actes des Apôtres et qui, sous l'inspiration de l'Esprit, rapporte ces choses. C'est pareil pour l'apôtre Pierre. Il a écrit deux épîtres, l'apôtre Pierre. Dans aucune d'elles, il ne parle des prodiges et des miracles qu'il accomplissait. Pourtant, lui, vous savez quoi? Quand il passait, on sortait les malades pour que, au moins, son ombre les touche et ils étaient guéris. C'est extraordinaire, hein? Mais Pierre, j'aime ce texte de l'Écriture qui nous montre. Notre sœur, ce matin, je lui dis, tiens, c'est bien. Elle a lu un texte qui rappelait la guérison du boiteux qui était, du boiteux de naissance, vous savez, qui était à la belle porte du temple. Donc, Pierre et Jean montent au temple, ils voient ce boiteux-là qui était là depuis des années, hein, puisque, voilà, boiteux de naissance, on la mettait tous les jours. Ça veut dire qu'il a vu le Seigneur Jésus, mais vous savez, il y a un temps pour la manifestation de la grâce du Seigneur. Je dis ça à l'égard de ceux qui persévèrent dans la foi depuis peut-être des années, qui prient. Il y a le temps de Dieu. Il y a toujours le temps du Seigneur. Et ce boiteux de naissance, voilà, vous savez comment il a été guéri. C'est intéressant d'ailleurs parce que Pierre dit, je n'ai ni argent ni or. Ils n'avaient pas la bénédiction de Dieu. Alors, parce que les faux prophètes vous disent aujourd'hui que si vous avez des difficultés financières, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Parce que normalement, vous devriez être dans l'opulence. Et ils se prennent, pour exemple, regardez, moi avant, mais maintenant, regardez ce que Dieu m'a donné. Et les gens, ils sont là. Ouais. Sauf que c'est eux qui ont été sollicités, qui ont donné pour qu'ils acquièrent tout cela. Voilà. Pierre dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre avait quelque chose de beaucoup plus précieux que l'argent et que l'or. Il avait la foi. La foi dans le nom de Jésus. Alléluia. Et il l'a pris par la main pour encourager sa foi. Et il l'a fait lever. Et le Seigneur a fait opérer le prodige et le miracle. Ce boiteux, il a sauté, etc. Et puis il est entré. Évidemment, c'était un transport de joie. Il sautait partout. On peut comprendre. Puis après, il s'est mis quand même à marcher, vous voyez. La grâce de Dieu, elle nous amène toujours dans l'équilibre. Toujours dans l'équilibre. Jamais dans l'excès. La grâce, c'est beau, la grâce, n'est-ce pas? C'est l'équilibre, c'est la sagesse, c'est aussi l'enthousiasme pour le Seigneur, n'est-ce pas? Et alors, évidemment, tous les yeux se sont portés vers Pierre et Jean. Et Pierre, il l'a vu. Et il a dit à ces gens qui le regardaient, mais pourquoi vous avez les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Sachez-le, c'est le nom de Jésus qui a raffermi cet homme. Et voilà un authentique serviteur du Seigneur qui reprend peut-être, qui rabroue peut-être un peu, voilà, mais qui replace les choses dans l'ordre où elles doivent être. Le Seigneur a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. À lui seul revient toute la gloire, toujours. Mais les faux prophètes, ils aiment la gloire. Alors ils se mettent en scène afin que les gens soient impressionnés. Voyez, j'ai vu, le Seigneur a conduit nos pas au Burkina depuis quelques années. Mais il n'y a pas qu'au Burkina. Mais j'ai vu tellement de choses. Je bénis le Seigneur d'abord pour les serviteurs de Dieu, fidèles et consacrés du Burkina, qui aujourd'hui encore tiennent bon. Parce que c'est difficile, vous savez, avec la menace djihadiste, avec les difficultés économiques, c'est difficile. Avec les églises qui sont persécutées, c'est difficile. Mais ces authentiques serviteurs de Dieu sont là, ils sont à leur poste et ils continuent d'annoncer l'Évangile. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais malheureusement, il y a aussi des faux prophètes. Je regardais, c'est dans un autre pays. Voici comment le serviteur de Dieu, entre guillemets, vient à l'église. Il est dans une limousine. Des militaires, on dirait un président de la République, vous voyez, court. Oui, mais il n'y a pas qu'au Nigeria. Nigeria, Congo, Côte d'Ivoire aussi, voilà. Oui, mais c'est pour ça que je ne veux pas citer de pays pour ne pas donner un mauvais témoignage d'un pays, parce qu'au Nigeria, il y a de magnifiques, de merveilleux serviteurs de Dieu. Voilà. Mais voilà, il arrivait dans une limousine, ce n'est pas des soldats, c'est des gens habillés en uniforme. Voilà, c'est son staff en fait qui court, qui a quelqu'un qui court. Quand il arrive devant l'église, il y a un grand tapis rouge, il descend, on lui apporte pieusement la Bible, voilà, et donc ceux qui portent l'uniforme se mettent au garde à vous. Je me dis, j'ai jamais été accueilli comme ça, moi. Ah, merci, ça me fait du bien. Bien-aimés frères et sœurs, voilà. C'est difficile, n'est-ce pas? Et ça, c'est aujourd'hui que ça se passe, voilà. Ils sont audacieux et arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires, voilà. Alors, je prends un temps aussi, 2 minutes pour parler de cela, parce que le temps est écoulé. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires, ça veut dire que non seulement ils font état de leurs exploits, de leurs miracles, de leurs prodiges, mais ils se permettent d'injurier les démons, de se moquer des démons. Mais vous savez que ça, c'est très grave. C'est extrêmement grave. L'Écriture nous dit, bon, certes, Satan, le diable, et tous ces démons, qui sont-ils? Ce sont des esprits méchants. Ce sont des gens, des anges déchus. Ce sont des gloires funestes qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont été emportés, balayés par la séduction de celui qui était Lucifer, le porteur de lumière, de celui qui dirigeait les chœurs de louanges dans le ciel et qui s'est enorgueilli à cause de sa position. Il est devenu Satan, l'opposant, le diable, le calomniateur. Il a séduit un tiers des anges du ciel. Certains sont liés actuellement dans l'abîme. Ils seront relâchés dans les derniers temps. Ils deviendront une source, un instrument de jugement terrible pour les nations lorsque l'Église aura été enlevée. Voilà. Mais nulle part, nous devons résister au diable avec une foi ferme, nous dit l'Écriture. Nous devons veiller à être remplis du Saint-Esprit pour nous opposer, pour discerner toutes les ruses du diable. L'Écriture nous dit, dans l'Épître de Jude, regardez, il est question de Michaël, ou plutôt Michel. Il est question, cette Épître de Jude, elle est entièrement consacrée au combat de la foi, et notamment à la lutte contre les faux prophètes. Il est dit, « Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, c'est une autorité d'ange, c'est un prince parmi les anges. Lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Même l'archange Michel. L'archange Michel, c'est celui qui est décrit, qui est appelé Michaël, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel. Voilà. Eh bien, même cet ange-là, avec l'autorité qui est la sienne, il n'a pas osé injurier le diable, Satan le diable. Et ces faux prophètes-là, c'est l'iniquité qui leur est reprochée, qui leur sera reprochée. Ils ont injurié les gloires, même si ce sont des gloires funestes. Bien-aimés frères et sœurs, ne croyons pas que nous allons impressionner le diable ou ses démons en les injuriant ou en se moquant d'eux, etc. Au contraire, si nous agissons ainsi, nous courons le risque de devenir une proie facile pour eux. Résistons-lui avec une foi ferme. Les faux prophètes ont un comportement immoral, Il est 2 Pierre chapitre 2, verset 12, je termine avec cela. Il est dit, « Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être privés, prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse. » C'est le verset 14, excusez-moi. Verset 14. « Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché, et ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. » Fausse doctrine et immoralité vont malheureusement souvent de pair. Alors voilà en quoi consiste l'iniquité des faux prophètes. Un mot de conclusion. Je vous lis Jacques chapitre 5, versets 19 et 20, c'est un texte important. Peut-être, voilà, Jacques chapitre 5, versets 19 et 20. Je vous lis ce texte, il nous est dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, si quelqu'un a été séduit loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » C'est un texte merveilleux qui nous montre d'abord que, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, on peut être un croyant authentiquement engagé avec le Seigneur, puis se relâcher et puis tomber dans une séduction, être séduit et s'égarer. Voilà. Ceux qui vous disent qu'une fois qu'on a été sauvé, on est toujours sauvé, la sécurité éternelle, je ne trouve pas cela dans la parole de Dieu. D'où les appels à la vigilance. Multiples, multipliés. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort. C'est grave de s'égarer. C'est grave d'être séduit. Ça peut conduire à la mort et à la mort éternelle. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de ramener, voilà, c'est ce que je veux retenir dans ce texte, quelqu'un qui s'est égaré. Je dis cela pour encourager ceux qui peut-être connaissent des frères et sœurs qui ont marché un temps avec le Seigneur, voilà, et puis maintenant qui fréquentent peut-être des milieux où on entend toutes sortes de fausses doctrines, toutes sortes des serviteurs de Dieu, enfin, entre guillemets, douteux, il existe un moyen de pouvoir ramener une âme qui s'est égarée loin de la vérité. C'est possible de ramener une âme. Ça se fait dans la prière, en se tenant devant le Seigneur. Ça se fait en manifestant de l'amour. C'est pas parce que quelqu'un quitte l'Église qu'on doit le condamner, le juger. On doit continuer de l'aimer et de l'aimer véritablement. D'où l'importance de vivre le renouvellement dans le Saint-Esprit. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous accorde sa grâce. Cet après-midi, il y a, c'est vrai, prévu un temps de questions-réponses, mais avant cela, il faut que j'aborde un dernier point, un dernier petit point, parce que, voilà, je dois faire cela, et je le ferai donc cet après-midi. Après, il y a quelques questions qui ont été posées, et donc j'essaierai d'y répondre avec la parole de Dieu et la grâce du Seigneur. Je vous invite à prier, s'il vous plaît. Nous te rendons grâce, éternel notre Dieu, pour ta présence, le don de ton esprit qui éclaire ta parole, qui la fait pénétrer dans nos cœurs pour qu'elle vive en nous et qu'elle nous fasse vivre dans ces temps difficiles et qu'elle mène sain et sauf jusqu'à ce que nous puissions franchir un jour ces portes de perles de la cité de Dieu, celle dont tu es l'architecte et le constructeur. Merci Seigneur de nous garder. Sans toi, nous sommes conscients que nous ne pouvons absolument rien faire. Sans toi, nous ne savons rien. Nous ne sommes rien. Nous n'avons rien, Seigneur. Alors merci, ô Dieu, pour ta patience à notre égard. Merci pour le renouvellement constant de ton amour, de ta grâce dans notre vie. Merci, Seigneur, de nous apprendre à nous aimer les uns les autres. Merci, notre Père. Je te prie de bénir tous mes frères et sœurs, de bénir Luc et Valérie, pasteurs de cette assemblée, Seigneur. Accorde-lui, accorde-leur ta grâce, tous les divers responsables, que ta grâce, ton esprit les unisse, que l'on puisse dire à travers leur témoignage, voyez combien ils s'aiment. Tu nous dis que c'est à cela qu'ils reconnaîtront que nous sommes vraiment tes disciples, à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Alors merci Seigneur de répandre encore une fois par ton esprit, ton amour dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.